Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h08, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Toujours très heureux d'être avec vous. Le week-end, nous sommes là pour vous accompagner. Bon petit déjeuner, bon réveil. Tranquillement, nous sommes là jusqu'à midi. Sachez que nous avons évoqué le choc des Olympiques à 9h. Donc si vous voulez nous réécouter en podcast, faites-le tranquillement cet après-midi. Dans quelques instants, ici, Mathieu Jalibert remplaçait Romain Tamac à l'ouverture face à l'Angleterre. Fabien Galthié l'a laissé entendre hier. Est-ce un pari risqué pour un joueur déclassé depuis quelques mois? 10h30, le dossier des GG. Les Bleus d'Urne jouent la petite finale cet après-midi face au Portugal. Cette troisième place aurait-elle de la valeur pour notre équipe de France qui a tant gagné? 10h45, les GG contre-attaque. Vous avez tous proposé un débat il y a quelques instants. Sachez que, pour l'instant, le séisme Doncic à Los Angeles. Au Lakers, ça s'est passé pour la nuit, pour l'échange incroyable en NBA. 64% pour Fred Weiss. Pour l'instant, c'est un plébiscite, mais attention, Fred Weiss.
Ça peut aller vite.
Vous posez un débat sur le hockey sur glace en Finlande, ça va être plus intéressant que
mais on fait déjà du rugby, non?
Il est bougon, hein, Christophe. Hein, mais le cyclocross, c'est pas mal. C'est 16% pour l'instant. Mais ça va remonter. Ça va remonter. Ça va être incroyable aussi.
Pas sûr, les Américains n'aiment pas la boue.
je râle pas parce que moi, je suis en dernière position.
Oui, mais toi,
Christophe,
t'as l'habitude d'être en dernière position.
Oh, ça veut dire que toi, t'es nul, il le sait.
Alors, t'as vu ça comme il te traite. Je suis très étonné.
Je suis très étonné.
Panturo, stop ou encore, 7% seulement pour toi. Mais c'est que le début. Vous avez encore plus d'une demi-heure pour aller voter sur le compte X des grandes gueules du sport. Et puis, 11h, on parlera de Victor Wembanyama qui a commencé à être remis un petit peu en question. Est-ce que la folie Wemby peut laisser la place
les Américains n'aiment pas les Français, c'est bien connu.
À la jalousie.
Il n'y a que Fred qui adore ce pays, qui a envie de prendre la green card et habiter là-bas. Voilà.
C'est vrai.
On va t'envoyer.
J'habite à Limoges, quasiment pareil, tu sais.
On va aller sur un autre pays pour un proverbe allemand pour débuter cette nouvelle heure. Voici ce que dit ce proverbe allemand. Celui qui a le choix a aussi le tourment.
RMC, le bras de fer GG.
Le but d'un entretien pour le recruteur, c'est de collecter des informations sur vous.
Oui, tout à fait.
Mathieu Jalibert, 25 ans, rugbyman professionnel. À l'Union Bordeaux-Bègles.
Bonjour Mathieu.
J'aime beaucoup le sport.
Ne parlez jamais de façon générale. Tous les candidats commettent les mêmes erreurs en entretien.
Oui, tout à fait, mais pour l'instant, il y a très peu de risques.
Nous, on a besoin de joueurs déterminés, habités par une seule chose, c'est être convaincu d'être à sa place.
Oui, tout à fait.
C'est vrai que mon rêve d'enfant, c'était forcément aussi gagner des titres.
On s'est attaché à des choses simples.
Oui, tout à fait, elle a de la gueule.
N'oubliez pas que le recruteur va vouloir évaluer certaines de vos compétences qui sont essentielles pour le poste, pour pouvoir vous comparer avec les autres candidats.
C'est quoi les qualités du joueur de rugby français?
Beaucoup d'amour et de gentillesse, des choses un peu exclusives.
Oui, tout à fait, on va se régaler.
Le bonheur... C'est un limite.
Oui, tout à fait.
La joie, un veillé de bonheur, quoi, rempli de bonheur, une piscine de bonheur.
Oui, tout à fait.
Moi, je prends des tapes sur la tête 200 fois par saison.
Oui, tout à fait. C'est plutôt une garde tranchée.
À un moment donné, les Saint-Grégoire, on est des Gaulois.
Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait.
Ils sont coquins quand même à la production, hein, Kylian Vérov.
Il a rempli le Moscato Show.
Voilà. Pour Philippe Saint-André. Alors c'était le débat avant le tournoi Destination, qui pour accompagner Antoine Dupont en charnière, Romain Ntamack, le titulaire à l'ouverture depuis l'ère Galthié mais blessé avant la Coupe du Monde, ou Thomas Ramos époustouflant à ce poste durant la tournée d'automne.
Ouais.
Fabien Galthié avait tranché, ce sera Romain Ntamack.
Mais contrairement à ce que disait Wilfried Templier hier, hein.
De quoi?
Wilfried Templier a annoncé que Thomas Ramos serait l'ouvreur du 15 de France.
Quoi, face à l'Angleterre?
Ouais.
Ah, mais j'y suis pas encore. T'as pas vu mon lancement. Merci beaucoup, Christophe. Parce que là, je parlais d'avant le tournoi Destination. Merci. Comme un jour sans fin, le même débat donc réapparaît aujourd'hui après le carton rouge du numéro 10 du Stade Toulousain face au Pays de Galles. Mathieu Jalibert ou Thomas Ramos à l'ouverture pour le crunch. Hier, Fabien Galthié a ouvert la porte aux Bordelais déclassés durant la dernière tournée d'automne. Jalibert pour remplacer Ntamack. Est-ce un pari risqué dans le coin droit? La team, non, pas du tout. Philippe Saint-André, Sarah Pitkowski et Christophe Cessieux dans le coin gauche. La team, mais oui, c'est risqué. C'est Fred Weiss Il est tout seul, mais il va tenter de se battre, évidemment, avant de débattre. On va retrouver notre journaliste RMC Sport de la cellule rugby, Pierre Thévenet. Salut Pierre.
Bonjour messieurs, mesdames.
Et oui, encore une fois, Fabien Galthié va devoir faire un choix très important, et là c'est pour l'Angleterre.
Oui, il a plusieurs options. D'abord, ce qu'il aimerait sans doute faire s'il avait tous ses joueurs disponibles, à savoir, comme en novembre, titulariser Thomas Ramos à l'ouverture. Le Toulousain a disputé 5 matchs à ce poste la saison dernière en bleu, avec brio pour 5 victoires, mais il faudrait un arrière pour le remplacer, et ni Romain Burros, touché à la cheville, ni Léo Barré, qui se remet d'une commotion, n'ont été appelés à Marcoussi. Faire monter Ramos à l'ouverture obligerait par exemple à décaler Louis Bielle-Biarré à l'arrière. Il a déjà joué à ce poste-là à Bordeaux, mais ce n'est pas une option privilégiée. Une autre option que semble déjà avoir balayé Fabien Galthié serait d'utiliser le capitaine Dupont comme numéro 10. Il a déjà joué à ce poste en cours de match en novembre, avec Toulouse également, mais au vu de ses performances comme demi de mêlée, ce serait très surprenant de le voir sortir de sa zone de confort.
Et ça pourrait donc permettre à Mathieu Jalibert de revenir dans le 15.
Oui, en novembre, Fabien Galthié l'avait écarté des 23 pour le match contre les Blacks. Le Bordelais, étincelant depuis le début de l'année, avait alors préféré quitter Marcoussi. Mais en écoutant le sélectionneur hier sur France 2, on se dit qu'il pourrait bien lui faire confiance à Twickenham.
Cet hiver, enfin au mois de novembre, on a joué avec Thomas Ramos à l'ouverture. Il y avait Romain Burros et Léo Barré qui étaient disponibles. Il n'y a pas Romain Burros et Léo Barré. Mathieu Jalibert, lui, était avec nous aussi au mois de novembre. Donc voilà, aujourd'hui, parmi les 42 joueurs convoqués, les potentiels attaquants et ouvreurs de samedi prochain.
On a deux options, mais la première n'est pas possible. Voilà un peu ce que semble dire le sélectionneur. Ce serait la première titularisation en bleu de Jalibert depuis le 25 février 2024. Un match nul face à l'Italie. Il faudra voir comment le jeu des Bleus s'articule, parce que face au Pays de Galles, tout passait par Antoine Dupont, passeur décisif sur 3 des 4 premiers essais. À ses côtés, Ntamack a eu peu de ballons, cantonné un rôle de régulateur propre en défense. Le Bordelais peut-il s'adapter à ce système, lui, par qui tout passe en club à Bordeaux? Ce sera une question pour le staff des Bleus cette semaine.
Et la question, on se la pose tout de suite. Est-ce que c'est un pari risqué? Pierre Thévenet, tu restes avec nous pour ce débat. C'est le bras de fer des GG, vous l'avez bien compris. Fred Weiss est tout seul. Il dit oui, c'est un pari risqué. Et c'est un pari risqué pour lui également, parce qu'on vous a soumis cette question sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Et pour l'instant, nous sommes à 32-68. 32%, oui, c'est risqué. 68%, non, ce n'est pas risqué. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un si grand écart. Fred Weiss, tu es derrière, tu commences. Pourquoi oui, c'est risqué?
C'est assez simple. Tout le monde attendait Ramos, on est d'accord. Je pense que tout le monde imaginait que ce serait Ramos. Tout le monde parlait de ça. Il y a deux personnes qui sont pour moi des idoles absolues du sport qui ont dit ça. Qui? Wilfried Templier. Alors, on peut considérer qu'il connaît un petit peu le rugby. Et Philippe Saint-André, juste hier. Donc si mes deux idoles du rugby disent que Ramos
change d'idole,
c'est ce que je suis en train de me poser comme question. C'est que en fait, quand ces deux personnes qui connaissent évidemment mieux le rugby que moi, qui savent qui doit être sur le terrain, parce qu'on parle de Burros et Barré qui sont pas là, ils le savaient déjà. Donc on peut pas prendre ça en ligne de compte, évidemment.
Attends, juste Fred, je te corrige. Ce n'était pas forcément leur choix. Ils pensaient que Galthié allait faire.
Oui, mais à aucun moment
il y a une petite nuance.
Il y a une petite nuance, je te l'accorde. Mais à aucun moment ils n'ont dit non, il faut absolument que ce ne soit pas Ramos, il faut absolument que ce soit Jalibert. Et là je pense à Jalibert, je me dis Jalibert, c'est quelqu'un qui à chaque fois qu'il vient en équipe de France, il est sous pression, ça se passe pas super bien, on sent qu'il subit une vraie pression.
Parce que tu crois que Ntamack n'était pas sous pression, et tu crois que son geste qu'il a fait en fin de match qui doit un carton rouge,
évidemment, mais
là, dû à la pression.
Je suis d'accord avec toi Christophe, mais là on parle pas de Ntamack du coup. Donc comme on parle de Jalibert, on parle d'un ouvreur qui à chaque fois qu'il est en équipe de France et a été en difficulté, qui va avoir une cible dans le dos parce que
donne-moi des exemples de matchs où il a été en difficulté.
L'Italie l'année dernière. Sa dernière titularisation.
Toute l'équipe de France avait été en difficulté contre.
Sauf que tous n'ont pas payé. Je suis d'accord avec Fred. Tous n'ont pas payé. Mathieu Jalibert, lui, il a payé.
C'est toujours le soliste, c'est toujours l'ouvreur qui.
Malheureusement, c'est sur un poste de jeu un peu compliqué, évidemment. C'est lui qui a payé. En plus, ensuite, là, on est en train de dire qu'un mec qui a été déclassé, qui comptait quasiment plus pour ce staff, qui va revenir en équipe de France, qui va avoir une cible dans le dos parce que tout le monde pensait que ce serait Ramos, ben, va pas être sous pression à jouer à Twickenham contre les Anglais. Dans un crunch?
Donc c'est forcément un pari risqué.
Alors, t'as qu'à mettre l'ouvreur de l'Anne-Mezan, il aura peut-être un peu moins de pression, et puis comme ça, tu seras sûr de perdre. T'as raison de ne pas mettre les bons joueurs.
Il joue très bien avec son équipe.
Ne jamais mettre
évidemment
les bons joueurs au meilleur poste.
Évidemment,
t'as raison,
si. Mais tu te rends bien compte qu'il est en difficulté.
Si c'est le mettre en difficulté, je comprends pourquoi le basket français en est là, moi, tu vois.
Alors, le basket français est souvent dans le top 3 mondial, alors le rugby n'y est pas vraiment. Mais peu importe.
Je vais reprendre quand même les phrases de Fred. qui a cité mon nom. Ce qui est dommage hier, c'est que tu as écouté que la moitié de ma phrase.
Ben non, mais alors, j'ai compris peut-être que la moitié.
Il y a du mal jusqu'à la fin de la phrase.
Ce qui est sûr, c'est que dans la tête de Fabien Galthié, numéro 1 au poste d'ouvraire, c'est Ntamack. Mm-hmm. Numéro 2, c'est Ramos.
Bien sûr.
Voilà. Et numéro 3, c'est Jalibert. Le seul problème, c'est que les deux arrières.
Barré et Barros
sont blessés.
Barros, chaque fois je me trompe. Ouais.
Et donc, à partir de ce moment, la meilleure solution, c'est de garder Ramos au poste de 15 et de faire rentrer Jalibert, titulaire, au poste de 15.
Oui, mais on savait hier déjà.
C'est la solution la moins risquée. C'est là la question.
Voilà, okay. C'est la solution la moins risquée.
Alors, moi, je m'adresse à Philippe parce que peut-être que Fred n'était pas là avec nous hier, mais moi, j'étais présent. Et même, et Buros et Barré, tu le savais hier qu'ils étaient blessés. Et pourtant, toi, tu nous as dit, il va mettre Ramos.
J'en ai parlé. J'ai dit Buros est blessé. Léo Barré avait fait un KO. Denis Charvet a dit, je pense qu'il va pouvoir jouer. Donc Léo Barré peut jouer, ça sera Ramos en 10. Si Léo Barré est absent parce qu'il n'a pas récupéré de son KO, il n'a pas d'autre solution, surtout que il a attendu Fabien aussi de voir le match Irlande-Angleterre. Et hier, il y a eu du jeu au pied pendant 80 minutes avec des duels incroyables. Les Anglais ont fait que ça. Ils sont très bons dans les duels
donc
aériens.
Donc il a besoin de Ramos en 15.
Donc il a besoin d'un 15 d'expérience, d'un 15 qui a l'habitude de jouer à ce poste. Et Biel Barré, qui a fait quelques matchs en club, mais n'a jamais joué au niveau international au poste de 15. Titulaire, parce qu'il a fini le match contre les Gallois. Et en plus, il y a autre chose, c'est que Fabien Galthié, hier, a annoncé qu'il veut continuer à faire 6 avant, 2-3 quarts sur le banc. Et donc, avec 6 avant et 2-3 quarts sur le banc, c'est mieux d'avoir Ramos en 15 qui peut finir au poste de demi d'ouverture sur les fins de match.
Okay. Moi, j'ai une question, Philippe. Moi, j'ai juste une question. Ça ressemble pas à la dernière chance de Jalibert?
Je suis tout à fait d'accord. Il n'a pas le droit de se louper.
Il peut pas se louper. On est d'accord. Donc la pression est énorme sur lui. Et on sait que avec l'équipe de France, quand il a la pression, ça se passe un peu moins bien que dans son club où il est rayonnant. Est d'accord.
En club, il est rayonnant. En équipe de France, ces deux derniers matchs, que ça soit contre l'Italie ou le quart de finale de la Coupe du Monde, et où il a été en difficulté, il a besoin d'être très bon à Twickenham samedi prochain.
Ok. Il a besoin d'un match. Référence. Ok, on va écouter aussi Sarah et Christophe.
J'ai entendu les arguments de Philippe. Pour moi, c'est QFD. Hein. Est-ce que pour battre les Anglais à Twickenham, est-ce qu'il faut un ouvreur? Il faut son ouvreur numéro 2 et son arrière numéro 4 ou il faut mieux jouer avec son ouvreur numéro 3 et son arrière numéro 1? C'est pas compliqué.
Tu m'as compris.
Bah oui, je t'ai compris. J'ai fait une analyse. Est-ce qu'il vaut mieux jouer avec Ramos en numéro 2 en tant qu'ouvreur et mettre Louis Biel Barré?
Moi, j'ai une question pour toi. 4, il était où Jalibert pendant la tournée d'automne?
Avec ton arrière numéro 1.
Il était où pendant la tournée d'automne?
De quoi?
Par exemple, Jalibert. Il a été complètement déclassé.
Oui, mais
est-ce que c'est pas un peu dur moralement?
Parce que tu n'avais pas. Tu avais des arrières pour remplacer Ramos.
Évidemment.
Tu les as plus, ces arrières.
Évidemment.
Alors, ok. Donc, toi, tu penses que c'est risqué de mettre Jalibert. C'est de mettre Jalibert. Donc, si tu mets pas Jalibert, effectivement, tu mets Ramos en 10.
Oui.
Et tu mets à l'arrière un
c'est
mec
compliqué, ça, c'est
qui
n'a
jamais
c'est
joué à ce poste.
Complètement d'accord.
Mais
c'est pas parce que tu es obligé de le faire que c'est pas risqué.
C'est beaucoup plus risqué de faire la formule que tu préconises plutôt que de mettre Jalibert en 10 et de garder Ramos à l'arrière du terrain avec les qualités qu'il a. C'est un petit génie. On a vu encore ses coups de pied, ses 50 de qui trouve, voilà, c'est l'assurance tout risque d'avoir un Ramos derrière, même si ça va beaucoup bombarder et que peut-être qu'il aurait fallu avoir un Buros à ce moment-là. Malheureusement, il est blessé pendant 2 mois.
Mais il est blessé.
Évidemment, tu prends des risques quand tu fais une composition d'équipe, surtout quand tu vas jouer en Angleterre, surtout quand ton titulaire est suspendu. Donc il y a des choses qui vont changer par rapport au match précédent. Mais franchement, dire que c'est risqué de mettre celui que je considère aujourd'hui comme le meilleur ouvreur du championnat de France à ce poste-là, je trouve que ce n'est que justice à lui rendre de le mettre titulaire. dire, depuis le début de la saison, il marche sur l'eau, il fait gagner son équipe. C'est un génie. Alors on nous dit oui, mais en équipe de France, faut pas deux génies à côté l'un de l'autre. Et c'est vrai que le dépositaire du jeu de l'équipe de France, c'est Antoine Dupont, mais et que ses ouvreurs sont souvent finalement presque des faire-valoir ou des lieutenants.
Même si Ramos avait réussi à tirer son épingle du jeu lors de la tournée d'automne. Hein.
Il a aussi la volonté de construire le jeu, volonté de faire des choses. Donc on va voir ce que ça va donner, mais je pense que deux génies l'un à côté de l'autre, ça peut pas être.
Surtout, regarde-nous, ça marche pas.
Surtout, on va attendre Jalibert et Ramos parce que les deux souvent vont couvrir le troisième rideau. Donc on va attendre d'eux qu'ils soient bons sur les ballons, sur les duels aériens. On attend d'eux qu'ils soient bons sur l'occupation du terrain. Et donc là-dessus, quand même, on a de la longueur de pied avec ces deux joueurs.
Ok, ça rapide.
Juste pour terminer, c'est que là, on va changer un joueur à son poste. Le match qu'on a vu, même si effectivement c'était face à des Gallois qui sont plus l'ombre d'eux-mêmes, il y a eu quand même beaucoup de certitudes sur ce match. Et effectivement, aujourd'hui, il y a une seule interrogation. On va pas mettre plusieurs interrogations en faisant glisser des joueurs.
J'entends,
il y a juste Penaud qui a des chances de revenir au poste de trois quarts. Voilà aussi.
Moi, je trouve que vous semblez nier ce qui s'est passé tout de même avant le match face à la Nouvelle-Zélande. Pierre Thévenet nous en reparlait. Ce passage où Mathieu Jalibert, malheureux, a préféré quitter le groupe France. On sait qu'à ce moment-là, Fabien Galthié a pas forcément été tendre avec lui en disant, mais moi, j'ai besoin de gens qui sont concernés, qui pensent collectif et qui pensent pas individuel. Il ciblait évidemment Mathieu Jalibert qui a mis deux semaines à de nouveau parler avec son club de l'UBB de l'équipe de France en disant non mais c'est pas fini mais c'est compliqué tout ça. Je pense que vous semblez nier un petit peu le contexte. Oui Pierre.
Non mais ce qu'il faut rappeler quand même c'est que avant de le reconvoquer là cet hiver Fabien Galthié a appelé Mathieu Jalibert et lui a expliqué quel serait son rôle et son rôle à la base c'était d'être réserviste comme il l'était en novembre. Et Mathieu Jalibert a accepté de revenir en bleu avec ce rôle de réserviste. Au final, il va avoir une chance quasi inespérée de démarrer à Twickenham.
Avec une énorme pression là-bas en Angleterre à Twickenham.
Mais je pense pas qu'il y ait de l'eau dans le gaz entre Galthié et Jalibert. Ils se sont parlé, ils se sont expliqués. Jalibert a accepté de revenir.
Il y a eu carte sur table, en fait.
Exactement. C'était clair. Il venait, il était numéro 3. Voilà.
Ok, donc là il passe numéro 2 et vous me dites que c'est pas un pari.
Mais non, mais aujourd'hui on a besoin du numéro 3 parce qu'on peut pas faire autrement.
Ok, William nous appelle, ils sont nombreux à nous appeler au 32-16 à vouloir réagir. William, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Vous êtes dans quel camp ? Paris risqué ou pas risqué ?
Très risqué, pour moi il a tout à perdre. Moi je pense qu'il a tout à perdre. Le problème en fait c'est que Jalibert c'est un type talentueux incroyable. Je suis supporter de l'UBB mais je serai d'ailleurs, je reconnaîtrai aussi son talent. Et en fait le souci c'est que le jeu que Galthié demande c'est du jeu de gestionnaire, c'est tout ça. C'est ce que Ramos fait très bien et c'est pour ça qu'il est encensé. Et à juste titre, pourtant je suis pas fan du joueur, mais à juste titre, il fait ce qu'on lui demande très correctement. Et Jalibert, à mon avis, c'est plutôt un virtuose, un créateur. Les ballons passent par lui, à l'UBB, vous l'avez dit, et en équipe de France, c'est Dupont qui fait tout. Donc gérer, est-ce qu'il saura le faire je suis inquiet. Après, il y a la défense aussi, sur le plan défensif, c'est pas une foudre de guerre. Ramos, c'est pas mieux. Alors là, moi j'aimerais qu'on le dise plus souvent, parce que Ramos, en défense, il se trouve plus qu'à son tour. Donc pour moi il a tout à perdre, il va avoir une pression incroyable, il y a eu l'épisode de Nouvelle-Zélande et de repartir à ce titre. D'ailleurs, petit aparté, Galthié il est gentil de donner des leçons, mais rappelez-vous son passage en équipe de France et ses nombreux départs ou renoncements, enfin ceux qui connaissent un peu son histoire de joueur se rappelleront tout ça.
Il avait fait la même chose, exactement.
Pour la troisième place.
Ouais. Il est parti parce que son parrain était décédé.
Mais par contre,
il est pas remonté dans le bus en Nouvelle-Calédonie. Enfin, il les a lâchés plus d'une fois.
Par contre, toi qui es supporter de Bordeaux,
l'impression au gamin, c'est compliqué pour lui. C'est compliqué.
Alors, ça veut dire que tu ne veux plus jamais le mettre en équipe de France. Alors, ça veut dire que tu ne veux plus jamais le mettre en équipe de France parce qu'il n'a pas les épaules et parce qu'il est trop créateur.
C'est pas ce que j'ai dit que le jeu n'est pas tourné pour lui. Donc tant qu'on aura du jeu d'épicier, du jeu de gestionnaire, des ballons en l'air et puis on va le rattraper quand les mecs d'en face se seront trouvés. Alors ça tourne un peu, on n'est plus à la dépossession du début, mais enfin on s'en approche quand même un peu. Tant qu'on aura ce jeu-là et pas un jeu avec des belles envolées, on a des joueurs incroyables en équipe de France, pourquoi on ne joue pas comme ça? Et juste un aparté, Denis avait dit il y a quelques temps entre les poteaux, on ne gagnera rien avec ce jeu-là, juste après la Nouvelle-Zélande, rappelez-vous. Et je suis d'accord avec lui, on ne gagnera rien avec ce jeu-là.
J'ai une question.
Philippe Saint-André,
j'ai une question. Donc toi, tu préférerais que Bielbarré joue 15 à Twickenham pour sa première sélection en tant que titulaire?
pas du tout, je crois pas. Après, je suis pas inquiet, les ballons hauts, il sait les prendre. Il a un talent incroyable, ce gamin. Non, 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 pas du tout. Je sais pas, c'est pas ça. Ce que je voulais pas, dont parler, c'était Jalibert. Pour moi, c'est casse-gueule pour lui. Après, oui, t'as raison, Bielbarré, à l'arrière, risqué pour le gamin, mais il est talentueux, il pourrait y arriver.
Oui, mais Jalibert est talentueux aussi.
Non, mais ça l'inquiète, vous avez bien compris, ça l'inquiète pour Jalibert. Il y a Christophe aussi qui nous appelle et j'ai l'impression que c'est un peu le même son de cloche. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Et merci William d'avoir composé le 32-16. Risqué ou pas risqué?
Pour moi, c'est un pari risqué. Je m'explique. En fait, pour regarder tous les week-ends le championnat de top 14, même la Coupe d'Europe, le point faible de l'UBB, c'est la défense sur Jalibert. Une équipe comme l'Angleterre qui joue énormément avec les rucks sur la première phase d'attaque, ils vont tomber automatiquement sur lui. Et Mahfou ne pourra pas pallier les problèmes de Jalibert. Alors, c'est sûr que s'il va derrière en doublure de 15 pour attraper les ballons hauts, là je suis d'accord. Là oui, effectivement, pour attraper les ballons. Par contre, en phase de défense, je suis pas d'accord. Ça va être le maillon faible de notre équipe.
Alors après, attends, ce qui est important, Philippe Saint-André. Ce qui est important, c'est que maintenant, dans les organisations défensives, souvent le demi d'ouverture sur les premiers temps de jeu, que ça soit en mêlée ou en touche, on peut les mettre au poste de 13. Ouais. C'est-à-dire que Mahfou va défendre au poste de demi d'ouverture, ou même on peut mettre Jalibert comme un deuxième 15 avec un ailier qui vient défendre. Donc il y a quand même des solutions pour essayer de mettre Jalibert dans des positions différentes sur les premiers temps de jeu en défense.
Antoine Dupont, il a son mot à dire, Christophe, rapidement ou pas?
Forcément, Antoine Dupont, c'est le patron de l'équipe de France. Hein, c'est...
Philippe, il a son mot à dire?
Bien sûr, c'est le boss, ouais. Hein, bien sûr. C'est le capitaine en plus.
C'est le capitaine et je pense que Galtier, avant de parler à France Télévisions hier soir, a dû s'entretenir avec son capitaine, avec le groupe des Gersois, pour dire, bon... On le met ou on le met pas?
Ok, on fait quoi? Pierre Thévenet, la sanction de Romain Ntamack, ce sera pour quand?
Début de semaine, mardi ou mercredi, a priori. Je vous ai entendu hier, il devrait prendre 6 semaines, sans doute. Ça semble être le
avec un peu de sursis, vu
avec peut-être réduction de moitié, étant donné que son casier est vierge.
50%.
Également réduire d'une semaine encore en passant un protocole qui s'appelle le head contact,
sur la technique de plaquage,
exactement, qui pourrait réduire encore d'une semaine. Donc on pourrait l'avoir contre l'Italie, mais contre l'Angleterre.
Ça, c'est mort. C'est d'office après ce carton rouge. Merci beaucoup Pierre Thévenet d'avoir été avec nous. Évidemment, toutes les informations sont à retrouver sur rmcsport.fr et j'imagine que dans l'excellent podcast Entre les poteaux, vous parlerez, Christophe, évidemment, du 15 de France et de cette très belle victoire face au Pays de Galles. Mais on va se projeter rapidement sur l'Angleterre samedi prochain.
Félicite Fred, il s'est bien battu quand même.
Bien sûr, mais il est costaud, mon cher Fred. En plus, tous les auditeurs sont d'accord avec lui ce matin. Comme quoi, tout arrive. 10h30, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre programme. On va parler de cette troisième place. Est-ce que ça vraiment de la valeur pour l'équipe de France de hand qui a tant gagné? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Oui, tout à fait.
Jean-Christophe Drouet.
Eh oui, tout à fait. On est de retour avec Philippe Saint-André, avec Sarah Pitkowski, avec Christophe Cessieux. Fred Weiss, il est 10h33. Vous écoutez RMC dans 10 minutes. Eh bien, ce seront les GG contre-attaque. Les GG ont proposé 4 débats et on est bien parti pour parler du séisme en NBA et de ce transfert incroyable de Luka Doncic aux Lakers. C'est une star de la NBA qui arrive pour jouer avec LeBron James. Ça fait énormément parlé ce matin, les amoureux du basket, et vous avez vous aussi, chers auditeurs, envie d'en parler. Donc ce sera normalement dans 10 minutes, à part si ça change, hein, dans 10 minutes avec Fred Weiss.
Votez pour le cyclocross, c'est un événement extraordinaire. Je vais vous raconter un peu comment ça va se passer aujourd'hui. Van Der Poel, Van Aert, franchement ça vaut le coup, c'est mieux que le basket quand même, non?
Non.
Oui, franchement, j'adore le cyclocross, mais là je crois que je suis quand même pas le cyclocross. Comme disent les
tu
jeunes,
n'as jamais aimé te tâcher sur les terrains de golf, on ne se tâche pas, on revient aussi nickel le soir qu'on était le matin.
Tu es bourré de clichés comme ça sur tous les sports.
Oui. Apparemment.
Le basket, le golf qui prend. D'ailleurs, petite annonce, hein, le golf refait son apparition sur RMC avec l'excellent podcast, mieux. Le Practice RMC, 4e saison à partir de demain. Donc vraiment, vous pouvez vous précipiter sur le podcast dès demain. Il y aura deux fois plus de numéros, les copains. C'est demain.
Avec des vrais experts.
Avec des vrais experts, évidemment, le Practice RMC pour une 4e saison.
Et Christophe Cessieux dessus aussi.
C'est fou, hein. Moi, je rigole pas quand vous faites Entre les poteaux. Je vous écoute et je trouve ça remarquable. Allez, tout de suite, le hand.
écœurer les Français. La Croatie qui est tout proche, tout proche d'une finale des championnats du monde. L'équipe de France est éliminée de ces championnats du monde au stade de la demi-finale. Ils ne joueront pas pour une médaille d'or en Oslo dimanche prochain. Victoire 31-28 pour la Croatie.
Bon, on file à la coulée du grand bronze.
RMC, le dossier des GG.
Je ne m'attendais pas à ça. Bien joué les copains en régie. Cet après-midi, pour les amateurs de cinéma, évidemment, la fameuse coulée du grand bronze. Cet après-midi, l'équipe de France de hand ne va pas disputer la finale qu'elle souhaitait. Vous l'avez compris, après sa défaite en demi-finale face à la Croatie jeudi, les Bleus vont donc affronter le Portugal, l'invité surprise, à 15h en petite finale. Les hommes de Guillaume Gilles voulaient laver l'affront des JO. Au mieux, ce sera une consolation. 6 fois championne du monde dans son histoire, cette équipe de France qui n'a plus remporté ce titre depuis 8 ans. On va retrouver notre envoyé spécial à Oslo, notre commentateur Clément Brossard. Bonjour Clément.
Salut tout le monde, présent pour la coulée du grand bronze. Salut.
Alors les Bleus sont-ils à fond pour aller chercher cette médaille de bronze?
Il y a un mot qui est devenu tabou, j'y sais, chez les Bleus, d'eux-mêmes, Jeux Olympiques. Je vous propose d'écouter justement Nedim Remili face à la presse hier après-midi à l'hôtel de l'équipe de France proche d'Oslo.
C'est la dernière fois que j'en parle parce que franchement c'est insupportable. Qu'il y ait une cicatrice par rapport au JO, c'est clair, c'est obligatoire. Ça nous marquera à vie. Si demain des joueurs de cette équipe écrivent des livres, ce sera sûrement écrit noir sur blanc. Mais on n'a jamais abordé cette compétition avec une pensée pour les JO. Ça aurait été notre plus grosse erreur. Ils ont inclus un préparateur mental. Si on avait fait ça, il aurait mal fait son boulot. On n'est pas dans oui l'après JO. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On se réconforte pas en se disant ah ouais vous aimez là, vous avez vu, on a fini 3e, on a passé un quart, donc on a passé les étapes. Non. Aujourd'hui c'est un nouveau groupe, une nouvelle manière de fonctionner. Ce qui s'est passé au JO, ça s'est passé au JO. C'est triste, c'est dur.
Depuis le début de la compétition, il n'y a jamais eu vraiment chez les joueurs l'envie de cacher cette ambition d'aller chercher une 7e étoile. Alors oui, ce rêve, il est passé, ce rêve d'or, mais il reste tout de même la possibilité d'aller chercher une médaille. Et le demi-centre de Vesprem, Nedim Remili, le voit comme un nouveau point de départ.
C'est pas la médaille qu'on attendait, c'est pas la médaille que la plupart des Français attendaient. Mais pour nous, ça reste quand même un beau défi, un beau challenge et quelque chose qu'on a envie de relever. Ça fera partie de l'histoire de cette équipe de France. Et j'espère que c'est à partir de cette épopée-là qu'on construira de plus belles encore dans le futur.
Mais la déception, il a fallu l'évacuer. Évidemment, le fait d'avoir été off avant-hier a fait du bien aux Bleus. Ils ont un petit peu évacué tout ça. Rémi, que vous avez entendu, a pu voir sa famille notamment. Il est joueur de Vesprem, c'était pas très très loin de Zagreb. Il a profité de son chien, de sa compagne, de son fils également. Fabregas, le capitaine, a passé sa première journée sans analyse vidéo. Donc on a fait un peu le vide. On a rejeté aussi hier les questions d'analyse de l'échec de la demi-finale. C'était un peu froid pour tout vous dire en conférence de presse. Pour se focaliser sur ce match pour le bronze, une médaille qui compte pour le sélectionneur Guillaume Gilles.
Moi, je galvaude jamais à ce type de consécration. On a été, avec le handball français, très souvent habitué au foie gras avec la médaille d'or. Chaque aventure qui nous permet de nous retrouver sur une boîte, elle témoigne d'une qualité, elle témoigne d'un engagement et d'une performance qui est remarquable.
Face aux Bleus, cet après-midi, le Portugal, battu seulement par le Danemark dans ce mondial, après leur avoir tenu tête un peu plus d'une mi-temps, des Portugais portés par des joueurs de Benfica qui ont remporté notamment la C2 ou du Sporting Valeureux en Ligue des Champions, qui compte dans ses rangs les frères Costa, donc Kiko est le meilleur buteur de son équipe sur cette compétition, et le Portugal surtout motivé par l'envie d'aller chercher la première médaille mondiale de son histoire, Guillaume Gilles en a conscience.
C'est l'espoir d'une première breloque pour le handball portugais. Quand on voit leur entraîneur qui disent « j'aurai ma médaille avant de mourir », ok, très bien, c'est bien de le dire, on verra s'il y arrive, hein. C'est ce que je lui souhaite, hein. L'habitude de ces rendez-vous, c'est plutôt la France qui l'a. Tout dépend comment tu veux tourner le sujet.
Et le sujet, on veut tous le tourner de la même manière, hein. À choisir, on aimerait bien le tourner avec une médaille autour des coups français.
Eh oui, habitué au foie gras, on a entendu de la part de Guillaume Gilles. Merci beaucoup Clément Brossard. Alors pour cette équipe de France, c'est notre débat. Cette 3e place a-t-elle de la valeur? Pour le Portugal, évidemment, ce serait historique. Mais pour l'équipe de France, oui ou non? Christophe Cessieux?
Oui.
Fred Weiss?
Non.
Sarah Pitkowski?
Oui.
Philippe Saint-André?
Non.
J'ai 2 oui, j'ai 2 non. On va commencer par un oui tout de même, un peu de positif. Christophe, pourquoi oui? Pourquoi ce serait important?
Alors c'est vrai que lorsqu'on a gagné autant de titres, autant de trophées que l'a fait l'équipe de France de hand depuis 1995, cette petite médaillette de bronze ne serait certainement pas placée au premier rang dans l'armoire aux trophées. C'est évident. Mais je pense malgré tout qu'elle ferait le plus grand bien à cette équipe qui depuis un an maintenant et son dernier titre accumule les contre-performances. La plus grande des contre-performances, c'est évidemment cette élimination en quart de finale des Jeux Olympiques à la maison face à l'Allemagne, alors que tout semblait être au vert. Et on se demandait d'ailleurs au début de ce championnat du monde si la pilule amère avait été digérée et les bonnes perfs du début de la compétition nous avaient plutôt rassurés de ce côté-là. Mais moi, je pense que ce genre de truc, ça ne s'efface pas d'un coup de baguette magique. Il faut du temps, il faut une prise de confiance, de conscience. Et comme les rugbyman, je pense que ça n'a pas été fait après ces Jeux Olympiques ratés. C'est pour ça que terminer cette compétition par une victoire, la médaille, on s'en fiche, c'est une victoire. Terminer, voilà, sur une bonne note, même
c'est
si,
le début du redressement, quoi.
Voilà, même si elle est étriquée, même si elle est obtenue face à un adversaire qui n'a pas l'ombre du prestige de nos bleus, eh bien, leur ferait le plus grand bien, comme l'a fait finalement à la fin du tournoi des Six Nations l'année dernière en 2024. Et les victoires contre le Pays de Galles et l'Angleterre ont remis ensemble et remettre l'équipe de France de rugby dans le sens de la marche. Et moi, je crois pas à la thérapie de la défaite. Elle peut faire du bien, mais je pense qu'il y a rien de mieux qu'un succès probant pour se remettre les idées en place et retrouver confiance en soi. C'est pour ça que je pense que cette médaille de bronze, outre le trophée, on s'en fiche, c'est pas ça, mais se remettre les idées en place, se remettre à gagner, et à partir de là, tu pourras peut-être construire. Alors qu'ils avaient quitté les Jeux Olympiques sur une défaite qui leur a fait mal, et je pense qu'ils ne l'avaient pas réalisé à ce point.
Ok, donc ça a de la valeur et on l'a bien compris. Fred Weiss.
Mais je suis pas du tout d'accord, évidemment.
Évidemment.
Alors sur les poules, je suis d'accord. On fait plutôt une bonne phase de poule, mais dès que un match important arrive, déjà c'est très compliqué. L'Égypte, on s'en échappe vraiment par un trou de souris. Et le match important de la compétition, on le perd. Franchement, en quoi cette équipe qui a été nourrie au caviar ou au foie gras, peu importe l'appellation, va se satisfaire de gagner contre le Portugal à la fin? Je suis désolé, le Portugal, même s'ils font une très belle compétition, même s'ils ont battu l'Allemagne, ça a pas du tout cette importance. Ça peut pas te permettre de construire, de gagner contre le Portugal. Donc concrètement, oui, ils vont la gagner parce que logiquement on est au-dessus. Mais en quoi ça va être important? En quoi dans l'armoire à trophées on va reconnaître cette médaille comme ouah, c'est un point de départ? Non. Je pense que le point de départ, il aurait été si on avait battu la Croatie. Oui, aller en finale et perdre, il y a aucun problème parce qu'encore une fois, tu gagnes ce match qui est important, qui est intéressant, qui te fait progresser. Battre le Portugal, je vois pas en quoi ça te fait progresser.
Ok, Philippe Saint-André est d'accord avec toi, je crois.
Disons que dans un sport collectif, la médaille de bronze, elle est importante que dans une compétition, c'est les Jeux Olympiques. Mondial de foot, est-ce que tu te souviens de la troisième place Non. Moi, j'ai fait deux Coupes du Monde en tant que joueur. On a fait la troisième place contre l'Angleterre en Afrique
c'est
du
Sud. C'est la première fois que vous les battiez depuis combien d'années?
Ouais, mais on s'en foutait complètement. On avait les boules d'être pas en finale et de pas jouer les All Blacks et d'être champion du monde.
Et pourtant, le rugby n'avait pas l'habitude d'être troisième.
Voilà. Donc, sincèrement, pour moi, dans un sport collectif, un sport individuel, c'est complètement différent. Mais dans un sport collectif, à part les Jeux Olympiques où la médaille de bronze a de la valeur, sinon non. Sinon tu joues une compétition pour être champion du monde.
Alors remettez-les dans l'avion là. Alors ça sert à quoi de dépenser de l'argent et qui reste là-bas?
Et en plus,
ils
rentrent
à la maison
et qu'ils
se saoulent la gueule.
Et en plus, ils ont
eu 6
fois champion du monde. Ils ont été 6 fois.
Alors faites-les rentrer à la maison si ça n'a aucun intérêt.
Est-ce que tu te souviens en Coupe du Monde de foot qui a fini 3e? Tu t'en souviens?
Je t'ai dit que l'importance de cette médaille, c'est pas l'importance de la médaille en soi. Je vous ai expliqué en préliminaire, c'est-à-dire qu'elle sera pas sur le devant de l'armoire au trophée.
Donc,
c'est juste de terminer une compétition par une victoire qui te permet
contre le Portugal,
quelque chose de positif. Parce que là, tu termines les Jeux Olympiques, t'es au fond du trou. Tu termines là, t'es au fond du trou, ça va continuer comme ça. Juste un côté.
Tu finis par une victoire, la médaille n'a pas d'importance.
Sarah Pitkowski, pourquoi c'est important? Pourquoi ça a de la valeur?
Parce que c'est important, je pense, pour la suite de Guillaume Gilles. Parce que effectivement, il a été avec cette équipe, il a eu un titre de champion du monde, il a eu un titre de champion d'Europe, il a eu une médaille d'argent en championnat du monde. Il y a eu cette déconvenue aux Jeux Olympiques, ne pas prendre la médaille là. Pour moi, la pente, elle est descendante et ce serait pour moi indispensable pour qu'on puisse conforter Guillaume Gilles avec cette nouvelle équipe sur des nouvelles bases qu'ils aient cherché cette médaille d'argent.
Ça, il y a un statut de médaille de bronze. Il n'y avait qu'un seul match à gagner, c'était contre la Croatie, on n'a pas été capable de gagner. C'est le seul match qu'il fallait gagner.
Finir une
le reste, c'est de la mignotte.
Oui, mais finir une compétition.
Le Danemark après en finale quand même.
Oui, mais bien sûr,
on aurait dit finir une compétition sur une victoire, c'est important. Ce ne sont pas des joueurs qui se voient régulièrement.
C'est donc la victoire et pas la médaille qui t'importe. C'est ce qu'on est en train de dire. La médaille n'a aucune importance.
Mais la victoire, elle découlera d'une médaille de bronze. Et l'autre fait qu'il faut prendre en considération, c'est que ces phases de poule, elles valaient pas grand-chose parce qu'ils étaient dans une poule tellement faible.
C'est pour ça qu'il n'y avait qu'un seul match à gagner, un seul match difficile, un match qui aurait pu remonter le moral.
Donc c'est encore plus ce match-là qui est à gagner parce que ces matchs en poule, ils n'avaient pas de référence par rapport au statut de cette équipe de France.
Tu penses que le Portugal a des références par rapport au statut de l'équipe de France?
Non, mais c'est pour ça qu'il faut gagner. Il faut aller la chercher, la médaille de bronze. C'est indispensable.
Le Portugal n'a jamais gagné de médaille.
S'il n'y a pas cette victoire.
En 92, les Français avaient gagné beaucoup de médailles avant d'arriver aux Jeux Olympiques. Ils n'avaient rien. Les histoires d'équipe nationale, elles se construisent à partir de quelque chose, à partir de rien. C'est pas parce que toi, tu as été au sommet que les Portugais.
Tu peux pas me dire qu'ils ont des références actuellement. C'est pas possible de dire que les Portugais ont une référence qu'ils n'en ont pas. Tu peux inventer des références qui n'existent pas.
S'il y a bien une chose,
c'est pas digne d'un grand sportif comme tu es. Tu es méprisant vis-à-vis de ce pays.
Je constate juste qu'ils n'ont pas de référence actuellement. Mais j'ai dit aussi qu'ils avaient battu l'Allemagne et qu'ils font une super compétition.
Je vais répondre à Philippe qui dit finalement, est-ce qu'on se souvient de qui a fini 3e en Coupe du Monde? Peu importe, on se souvient pas qui on a battu pour gagner une médaille de bronze, mais on se souvient qu'une équipe de France a une médaille de bronze. Donc finalement, qui est en face, t'es sur le podium.
Une médaille de bronze aux Jeux Olympiques, oui. Mais dans le sport collectif, la finale de Coupe du Monde de foot, de rugby, deux équipes.
Oui, mais le
troisième, tu montes pas sur un podium. Il y a pas cette image du podium.
Elle existe. Elle existe. Du monde.
Ah ben, tu plaisantes.
Si,
elle existe. Au basket,
au rugby, au foot, elle n'existe pas.
On
parle des vrais sports.
Philippe, psychologiquement, quand vous avez battu l'Angleterre pour la 3e place, vous les aviez pas battus depuis des années. Et ça a relancé quelque chose. Et derrière, vous avez connu une série de victoires contre Christophe. L'Angleterre. Psychologiquement, elle a été importante, même si la médaille de bronze, je suis d'accord avec vous, on s'en bat l'œil.
Psychologiquement, c'est important. Là, je suis d'accord avec toi. Mais on parle de médaille de bronze ou on parle de psychologie là ?
On parle de psychologie, mais c'est peut-être un peu trop au niveau pour vous.
Ok, nous ne sommes pas assez au niveau. Alors Christophe Stessieu va débattre tout seul dans quelques instants sur le séisme en NBA, parce que c'est ça qui est choisi. C'est le transfert incroyable de Luka Doncic à Los Angeles avec les Lakers. On en parle dans quelques instants parce que c'est le débat plébiscité du jour dans les GG contre-attaque. A tout de suite sur RMC. On remercie Clément Brossard d'avoir été avec nous en direct d'Oslo. 15h, c'est la petite finale entre la France et Portugal. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h49 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Fred Weiss, Philippe Saint-André. À partir de 11h, Victor Wembanyama commence à faire des jaloux. On va en parler dans cette émission, mais tout de suite, les GG contre-attaque.
RMC. Les GG contre-attaque.
Vous avez pu voter, chers auditeurs, pour votre débat préféré. 4 propositions ce matin dans les grandes gueules du sport. La dernière place, malheureusement, pour Alexis Pinturo. Bon, rassure-toi, Sarah, on en a parlé hier dans cette émission, mais seulement 7%. Stop ou encore Alexis Pinturo, qui avait donné une conférence de presse, il émet des doutes sur la suite de sa carrière. 9% pour le rugby à 7. Alors là, je pensais pas que ça ferait autant, tu vois, Philippe Saint-André.
C'est pas mal.
Bravo pour ta performance. 16%, il est deuxième avec le cyclo-cross.
J'ai bien compris que le cyclisme intéressait plus les auditeurs d'un
RMC,
donc je n'en parlerai plus, rassurez-vous.
Les championnats du monde disputés aujourd'hui, ce sera à suivre sur RMC. 68%, c'est la première fois qu'on atteint un tel score, un plébiscite pour ce coup de tonnerre en NBA. Luka Doncic est transféré à Los Angeles, c'est une star de la NBA, il arrive aux Lakers pour jouer avec LeBron James. C'est à toi Fred Weiss, c'est ta proposition, explique les tenants, les aboutissants pour tous les auditeurs.
Alors il faut se rendre compte qu'en NBA on a le droit d'échanger des joueurs pendant la saison jusqu'à une certaine date, jusqu'au 6 février, et là ils se
sans leur accord.
Sans leur accord, évidemment.
Ah, tu les échanges
comme de la marchandise. En fait, pour préciser,
tu les mets dans un container et tu les envoies.
Il y a 30 franchises en NBA.
Sans leur accord.
Et donc sans l'accord du joueur, on peut dire que ce joueur va à tel endroit et qu'en échange, il y a un autre joueur qui vient à cet endroit-là. Donc ça arrive très fréquemment, et évidemment avant la trade deadline, ça arrive très fréquemment. Là, on est en train de parler de deux joueurs qui sont top 10, voire peut-être même mieux en NBA. C'est-à-dire qu'on a Luka Doncic, qui est l'image de la franchise de, des Dallas Mavericks, qui est un joueur phénoménal, incroyable, qui a amené son équipe l'année dernière en, en finale de la NBA, qui est échangé avec Anthony Davis, joueur de Los Angeles Lakers, qui est un des joueurs les plus performants aussi, alors souvent blessé malheureusement, mais un joueur des un des joueurs les plus performants de cette équipe des Lakers qui joue avec LeBron James, qui ont été échangés. Alors il y a dans, je vais pas entrer dans les détails, c'est pas exactement, il y a pas que ça, c'est pas en direct, il y a une équipe qui s'est mêlée à ça, il y a les Utah Jazz qui sont mêlés aussi pour que ça soit plus pour faciliter un peu cette transaction, mais il faut se rendre compte que ces deux joueurs encore une fois sont top 10 NBA. Donc c'est juste un truc incroyable, c'est des joueurs qui normalement quand ils sont dans une franchise sont peu transférés ou en tous les cas on leur demande leur accord. Là, tout le monde l'a appris par la presse.
Non mais qui décide, qui enclenche le transfert en fait.
Dans ce cas de figure, c'est Dallas et son staff qui allait voir les Lakers et qui leur a dit nous on a Luka Doncic si ça vous intéresse.
Là, les Lakers mais ils veulent se débarrasser de Doncic pour quelle raison?
Et ça c'est une très bonne. Alors il y a plusieurs explications.
Parce que si c'est un des top joueurs, pourquoi on s'en débarrasse?
La première raison, c'est que ils ont pas voulu le prolonger. Prolonger, c'est en fait il y a des obligations contractuelles en NBA qui font que quand tu prolonges, t'as un salaire assuré. C'est-à-dire il est, je crois que son salaire était à plus de 300 millions sur 5 ans.
Donc s'il le prolonge pas, c'est que déjà il y avait
ils se disent que il sera peut-être pas capable de les amener où ils veulent aller et où ils veulent garder un petit peu d'argent pour avoir d'autres joueurs pour aller plus loin dans la compétition parce que il y a des salariés cap nous aussi en NBA, donc à un moment il faut jongler avec
ça aussi.
Pas
même montant que le rugby.
OK, non, donc Dallas dit oui,
Dallas propose même, ce qui paraît incroyable encore une fois, il y a Dirk Nowitzki qui avait toute sa carrière à Dallas
ça doit et donc être, ça doit être on imaginait quand même, non.
Bah, c'est un peu vexant, mais encore une fois, c'est le business en NBA. Tout le monde le comprend. Hein. Mais c'est vrai que les deux sont transférés sans qu'ils soient au courant, ce qui paraît incroyable. C'est des superstars de la NBA. Hein. Mais LeBron James, la plus grande superstar de la NBA, n'était pas au courant. Il l'apprend dans la presse aussi. Alors qu'on imaginait que justement.
Mais ça n'a jamais fuité cette histoire.
Parce ça n'a pas fuité. C'est un insider de la NBA qui l'a annoncé.
D'ailleurs, on voit quelques images, et je te donne la parole, Philippe, on voit quelques images sur les réseaux sociaux avec des joueurs, notamment Kevin Durant, qui n'a rien à voir évidemment avec ce transfert, mais qui l'apprend. Il est sur le banc, il a son téléphone et il apprend le transfert en direct et on voit que les caméras sont braquées sur lui. Et il montre son téléphone à ses partenaires en disant regardez ce qui vient de se passer.
C'est incroyable. En fait, personne ne pouvait imaginer un transfert de cette ampleur.
L'entraîneur, quand même, il en parle aux joueurs un petit peu avant.
Ah non, c'est pas du tout comme ça. Ça n'a rien à voir. Mais si ça se trouve, l'entraîneur ne le savait pas non plus. Hein.
C'est les propriétaires qui se parlent entre eux.
C'est les propriétaires entre eux qui s'arrangent. C'est les directeurs sportifs, général manager qui s'arrangent.
Il y a des gros transferts financiers.
Il n'y a pas de financiers.
En fait, on échange un
salaire contre un autre salaire.
Il faut que les deux salaires soient équivalents aux États-Unis.
Le respect qu'on témoigne, on lui donne 300 millions, effectivement. Mais 300 millions,
l'avantage, c'est que quand tu es transféré, tu gagnes exactement la même chose. C'est-à-dire que ton contrat n'est pas valide. Donc, une franchise est valide dans toute la NBA. Dès qu'il t'arrive ailleurs, bah, tu gagnes exactement la même.
Ils ont des enfants qui vont à l'école, etc. Du jour au lendemain.
Sauf que t'es payé très cher et que tu le sais.
Oui, c'est les règles du jeu. C'est dommage. Neymar, en transférant à Santos, je crois qu'il touche pas le même salaire qu'il avait en Arabie Saoudite. C'est bête.
Ils ont pas fait un transfert de salaire, mais.
C'est un gros avantage quand même.
Ça me fait penser, pour rester dans la NBA, à Nicolas Batum, qui il y a deux ans, un an et demi, je crois, avait été transféré, voulait rester aux Clippers à Los Angeles. Il était bien avec sa famille, avec ses enfants, et il a été transféré à Philadelphie du jour au lendemain. Il n'était pas au courant. Il a appris, il quitte le pays.
Surtout quand on est Nicolas Batum, c'est pas tout à fait la même chose que les stars, parce que Nicolas Batum, c'est une contrepartie pour que les salaires correspondent. Les stars, c'est normalement, elles bougent pas encore une fois parce que c'est tellement des gros salaires, que c'est incroyable.
Oui, Nicolas Batum jouait le faire valoir dans cette histoire.
Il faisait l'argent qui manquait pour que ça correspondent les transferts schématisant et avec tout le respect que je porte à Nicolas Batum.
Là, c'est un transfert choc. Est-ce que dans les prochains jours, les prochaines semaines, on va connaître les dessous de cet échange? Est-ce qu'on va finir par le savoir?
Alors, on le sait un petit peu. C'est simplement pour l'évolution de leur franchise. Par exemple, Dallas qui dit quand on a la possibilité d'avoir un joueur défenseur aussi bon qu'Anthony Davis, on essaie de l'avoir. Et quand on a un joueur qui veut pas re-signer ou en tous les cas avec qui on trouve pas d'accord, on préfère le transférer.
Pour tous les amoureux du basket qui adorent LeBron James, qui dépassent même le cadre du basket, est-ce qu'avoir Luka Doncic à ses côtés, ça veut dire aller très loin là en playoff et peut-être gagner le titre?
Alors, objectivement, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, oui, qu'ils veulent aller plus loin et que c'est pas fini les transferts du côté des Lakers parce que tu perds ton pivot. et tu manquais déjà de pivot, donc tu vas devoir ramener quelqu'un d'autre sur ce poste-là, mais aussi que LeBron James n'est pas éternel et que la nouvelle image de la franchise des Lakers,
c'est
Luka Doncic qui n'a que 25 ans.
Si tu dois dire qui est gagnant dans ce transfert, tu dis qui, Dallas ou
à l'instant, pour gagner tout de suite, Dallas, sur l'avenir, et encore une fois, suivant les trades qui vont être opérés, peut-être Los Angeles. Okay. À l'instant T.
Donc Los Angeles ne devient pas favori parce qu'à l'intérieur, ils n'ont plus personne en échange d'Anthony Davis.
Ils sont un peu dépouillés de l'intérieur quand même, oui, donc c'est plus compliqué.
Mais j'ai tout compris. Ouais, j'avais rien compris avant, maintenant j'ai tout compris.
Moi, sincèrement, j'aurais préféré entendre Christophe Cessieux parler de cyclocross.
Mais moi, je suis obligé de me taper le rugby tout le temps, alors écoutez un peu de basket pour une fois.
C'est un maquignon, tu vends de la viande, là. C'est terrible.
Moi, j'entends que ça puisse être choquant, hein, mais nous, on est bercé dans ça, on est éduqué dans ça.
Les règles sont connues.
Petite anecdote, si tu me laisses juste la raconter. J'avais arrêté le basket depuis quelques années, et j'appartenais à New York, et j'ai été transféré à Houston alors que je ne jouais plus au basket. Et je l'ai appris sur mon téléphone en disant, ton contrat est transféré à Houston.
Et t'es pas parti à Houston.
Et je suis pas parti à Houston.
Tu restes là, my dear friend.
C'était important, et j'imagine que dans le podcast basket sur RMC, vous allez parler de basket ce transfert time hallucinant sur les réseaux sociaux. Ça n'arrête pas là,
c'est complètement
parce que
fou.
Tout le monde se réveille en se disant what, Luka Doncic.
J'ai cru une blague de l'IA, je sais pas, c'est impossible.
Allez, on se retrouve dans quelques instants. Bah justement, on va parler de Victor Wembanyama, un petit peu fatigué ce matin, qui fait des jaloux. À tout de suite sur RMC
jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.